Victor Hugo, Les voies intérieures. À Joseph Léopold Sigisbert. Comte Hugo, lieutenant général des armées du roi. Né en 1774, volontaire en 1791, colonel en 1803, général de brigade en 1809, gouverneur de province en 1810, lieutenant général en 1825, mort en 1828. Non inscrit sur l'arc de l'étoile. Son fils respectueux, Victor Hugo. La Portia de Shakespeare parle quelque part de cette musique que tout homme a en soi. Malheur, dit-elle, à qui ne l'entend pas. Cette musique, la nature aussi l'a en elle. Si le livre qu'on va lire est quelque chose, il est l'écho, bien confus et bien affaibli sans doute, mais fidèle, l'auteur le croit, de ce chant qui répond en nous au chant que nous entendons hors de nous. Au reste, cet écho intime et secret étant, aux yeux de l'auteur, la poésie même, ce volume, avec quelques nuances nouvelles peut-être, et les développements que le temps a amenés, ne fait que continuer ceux qui l'ont précédé. Ce qu'il contient, les autres le contenaient. À cette différence près que dans les orientales, par exemple, la fleur serait plus épanouie. Dans les voies intérieures, la goutte de rosée ou de pluie serait plus cachée. La poésie, en supposant que ce soit ici le lieu de prononcer un si grand mot, la poésie est comme Dieu, une et inépuisable. Si l'homme a sa voix, si la nature a la sienne, les événements ont aussi la leur. L'auteur a toujours pensé que la mission du poète était de fondre dans un même groupe de chants cette triple parole qui renferme un triple enseignement. Car la première s'adresse plus particulièrement au cœur, la seconde à l'âme, la troisième à l'esprit. Tres radios. Et puis, dans l'époque où nous vivons, tout l'homme ne se retrouve-t-il pas là? N'est-il pas entièrement compris sous ce triple aspect de notre vie? Le foyer, le champ, la rue? Le foyer qui est notre cœur même, le champ où la nature nous parle, la rue où tempête, à travers les coups de fouet des partis, cet embarras de charrettes qu'on appelle les événements politiques. Et, disons-le en passant, dans cette mêlée d'hommes, de doctrines et d'intérêts qui se ruent si violemment tous les jours sur chacune des œuvres qu'il est donné à ce siècle de fer, le poète a une fonction sérieuse. Sans parler même ici de son influence civilisatrice, c'est à lui qu'il appartient d'élever, lorsqu'il le mérite, les événements politiques à la dignité d'événements historiques. Il faut pour cela qu'il jette sur ses contemporains ce tranquille regard que l'histoire jette sur le passé. Il faut que, sans se laisser tromper aux illusions d'optique, aux mirages menteurs, aux voisinages momentanés, il mette dès à présent tout en perspective, diminuant ceci, grandissant cela. Il faut qu'il ne trempe dans aucune voie de fait. Il faut qu'il sache se maintenir au-dessus du tumulte, inébranlable, austère et bienveillant, indulgent quelquefois, chose difficile, impartial toujours, chose plus difficile encore. Qu'il ait dans le cœur cette sympathique intelligence des révolutions qui impliquent le dédain de l'émeute, ce grave respect du peuple qui s'allie au mépris de la foule. Que son esprit ne concède rien aux petites colères ni aux petites vanités. Que son éloge, comme son blâme, prenne souvent à rebours, tantôt l'esprit de cour, tantôt l'esprit de faction. Il faut qu'il puisse saluer le drapeau tricolore sans insulter les fleurs de lys. Il faut qu'il puisse, dans le même livre, presque à la même page, flétrir l'homme qui a vendu une femme et louer un noble jeune prince pour une bonne action bien faite, glorifier la haute idée sculptée sur l'arc de l'étoile et consoler la triste pensée enfermée dans la tombe de Charles X.